La parasha de cette semaine, c'est parashat Terouma. Et au début de parashat Terouma, il y a quelques versets que nous allons lire, très peu. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Israël, veikruli Terouma, me'et kolish asher yidevenu libo, tikru et Terumati. Parle aux enfants d'Israël, ils prendront pour moi un prélèvement de tout homme qui fera un don du cœur. Vous prendrez mon prélèvement. Le verset d'après, et après on va passer au commentaire. Vezot ateruma, et voici le prélèvement achartikru meitam que vous prendrez d'eux. Et il y a la liste de tous les éléments qui constituent le Mishkan. Alors, ici, il y a quelques remarques à faire, mais avant de faire ces remarques, on va rappeler un remez, une allusion que nous avons citée ici souvent déjà, qui est dans le deuxième verset, « Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, veikru li teruma, ils prendront pour moi une teruma, mais et kol ish asher yidvenu libo. » Il y a deux mots que je voudrais isoler des autres. Trois mots très exactement. Israël, Bnei Israël, on parle de... Li, pour moi, et Asher, celui qui donnera son don du cœur. Je vous avais fait remarquer plusieurs fois que dans le mot Israël, vous avez en fait ces deux mots qui se retrouvent. Li et Asher. Israël, vous décomposez le mot, vous avez Li, la dernière lettre c'est un Lamed, la première lettre c'est un Yud. Et après il vous reste au milieu Shin, Resh, Aleph, Asher. Donc, vous retrouvez le mot Israël qui est découpé dans le verset. Veikru li teruma, me'et kolish asher yidvenu libo. Donc, vous retrouvez le mot asher et le mot li, juste après avoir cité le mot Israël. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire comme remarque? C'est le Bnei Issachar qui l'explique, j'ai déjà cité souvent, je dis. C'est qu'en fait, li, ça veut dire à moi. Asher, c'est ce que. Osher, ça veut dire aussi le bonheur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Akadash Baruch Hu dit, vous savez, le peuple juif, il est à moi. N'oubliez pas, vous, Israël, que vous êtes à moi. Li. Comme on dit, Areat Mekudeshet Li. Tu m'es réservé à moi. Li à moi. Et Asher, c'est les trois lettres qui restent au milieu. Asher, c'est en fait valeur numérique 501. Asher, c'est 501 en valeur numérique. Et ça correspond à la fusion qu'il y a entre un homme et une femme, puisqu'il y a 248 membres chez l'homme, 253 membres chez la femme, ça fait 253 et 248 lorsqu'ils se retrouvent, ça fait 501. Donc c'est une allusion au fait que Dieu, dans sa relation avec Israël, il dit « vous êtes à moi », c'est-à-dire « vous ne devez pas aller vers d'autres dieux, vous devez être exclusivement à moi, vous devez vous consacrer à mon service à moi et ne pas vous disperser, li à moi », c'est la première et la dernière lettre, donc ça rappelle les kiddushin, tu m'es réservé, tu es interdite à tout autre homme, et Asher représente la fusion, c'est le mariage, c'est le moment où il y a un retrouvaille entre l'homme et la femme, et donc c'est Dieu qui dit, je veux créer avec vous une relation fusionnelle d'intimité, symbolisée par le mot Asher 501, qui est la somme de 248, les 248 membres d'un homme et les 253 membres d'une femme, ce qui donne 501. Donc ça, c'est une petite allusion, et qui est très intéressante parce que Asher Yidvenu Libo, quand est-ce qu'on arrive à cette fusion, à cette relation d'intimité avec Hachem, s'il y a Nidvat Lev, c'est-à-dire un don du cœur. De quoi parle-t-on en fait dans cette paracha? D'une terouma. C'est quoi la terouma? C'est un prélèvement. Nos sages font remarquer, Rashi déjà le premier, c'est qu'il écrit trois fois le mot terouma. En l'espace de quelques mots, terouma une fois, deux fois, trois fois. Trois fois, en l'espace de quelques mots, vous vérifierez, le verset 2 et le verset 3 contiennent trois fois le mot terouma. C'est vraiment lourd. C'est une insistance qui est bizarre. Viens, Rashi, Amrou Rabotenu. Nos sages ont dit, Shalosh Trumot Amurot Kan. Il y a ici trois terumot qui sont écrits ici. Pourquoi trois troumotes, trois fois le mot terouma? parce que ça fait allusion aux trois dons, aux trois prélèvements qui ont été faits à ce moment-là, dans cette période assez courte. Le premier prélèvement, c'est Beka la Goulgolet, c'est-à-dire un prélèvement d'un demi-cycle, Machatzit HaShekel, avec lesquels on a créé les Adanim. Adanim, ce sont les socles. Je vous explique. Le Mishkan est construit par des poutres. Sous les poutres, il y a deux tenons, sous chaque poutre, et ces tenons rentrent dans des socles. Des socles qui sont donc carrés ou rectangulaires, avec à l'intérieur, évidemment, un espace vide dans lequel rentre le tenon. Sous chaque poutre, vous avez deux socles. Ces deux socles, on appelle donc les Adanim. Aden en singulier, ça fait bien penser à l'ADN. Il y en a 100 en tout, pour nous rappeler quelque part les 100 brachot. Lorsqu'on fait 100 brachot, qu'est-ce qu'on dit ? Baruch Ata Adoshem. Adoshem au pluriel, c'est Adanim. Adoshem, Adanim. Donc lorsqu'on répète 100 fois les brachot, on crée les socles de notre vie de quotidienne. Donc on a ici des socles. Ces socles sont donc faits à partir d'un prélèvement d'un demi-cycle d'argent. C'est-à-dire que chacun devait donner un demi-cycle. Pourquoi on devait donner un demi-cycle ? Pour compter les Béné Israël. On n'avait pas le droit de les compter les uns après les autres. Il fallait que chacun donne un demi-cycle. Et on ne comptait pas les hommes, on comptait les demi-cycles. Ce qu'on appelle Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'est une pièce. On comptait les pièces, on ne comptait pas les hommes. Donc si on avait X pièces, on savait combien on avait de personnes dans le peuple juif. Chacun devait donner un demi-cycle, donc une pièce. Une seule pièce par personne. Donc il y a cet élément-là qui est Machatzit HaShekel. On a utilisé, donc pour compter, une fois qu'on avait compté les pièces, qu'est-ce qu'on en a fait des pièces ? On ne les a pas jetées. On les a fondues. Et on en a fait des socles, qui sont le fondement, les fondations du Mishkan, du tabernacle. Je vous rappelle que le tabernacle, on pouvait le démonter, le remonter à chaque fois, et il fallait le poser sur des socles. Ensuite, deuxième terouma, parce qu'il y a écrit trois fois le mot terouma, « Ve'achat trumat ha-mizbeach ». C'est quoi trumat ha-mizbeach ? De nouveau un demi-cycle, « Machatzit HaShekel », les coupotes pour les caisses, « Liknot me'em korbanot tzibur » dit Rashi. C'est pour acheter des sacrifices. Vous savez qu'il y a des sacrifices qu'il faut apporter, mais des sacrifices qui ne sont pas individuels, des sacrifices de la communauté. Exemple aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on n'a pas un sacrifice spécifique de Rosh Chodesh. Ce qu'on appelle le moussaf, ce qu'on rajoute. À part les sacrifices quotidiens, qui sont un agneau le matin et un agneau le soir. Donc il y a les sacrifices quotidiens, et il y a les sacrifices exceptionnels. D'accord ? Donc là, on parle des sacrifices qui sont des sacrifices du quotidien, ou des fêtes. Rosh Chodesh est considéré aussi comme une fête, donc du moussaf. Comment on fait pour que ça soit un sacrifice de la communauté ? Comment on fait pour que ça soit le cas ? A priori, c'est un sacrifice individuel. Si c'est apporté, par exemple, si quelqu'un vient et dit « Je veux donner un chèque, je veux acheter les sacrifices pour l'année. J'offre. Moi seul, je suis Rothschild, j'offre les sacrifices pour toute l'année, pour tout le peuple juif. » On lui dit « On veut pas. » Pourquoi on veut pas ? Parce qu'il faut que chacun participe. Donc on réduit même le don que fait un riche qui a tous les moyens pour faire beaucoup plus. On dit non, qu'un demi-cycle pour laisser la place à des gens qui n'ont pas autant de moyens que vous, pour que chaque juif ait une part dans les sacrifices de la communauté. Sinon, ce n'est pas des sacrifices de la communauté. Donc on interdit tout don dans ce domaine-là. Chacun doit participer. Ce qu'on appelle les korbanot tzibur, les sacrifices de la communauté. Là encore, un demi-cycle. Donc on a combien de demi-cycles ? On a deux. Un qui a servi pour faire les socles et pour compter les juifs, et un qui va servir pour acheter les sacrifices toute l'année. Ce demi-cycle pour acheter les sacrifices toute l'année avait lieu tous les ans. Chaque année, il fallait de nouveau faire cet appel d'un demi-cycle. C'est une taxe obligatoire, ce n'est pas lié au don, c'était chacun devait le faire, tout le monde devait le faire. Par contre, il y a une troisième prélèvement, parce qu'il y a trois fois le mot terouma, et ça, c'est Nidvat kol echad ve'echad sheinatvu. Là, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, et il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, bref, toutes sortes de produits qui vont servir d'éléments, de matériaux qui vont permettre la construction du Mishkan. à proprement parler. À part les socles, tout le reste, c'est basé sur des dons volontaires. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'obligation. Nidvat lev, on veut le don du cœur. On veut que ça soit personnel, on veut que ça soit une démarche purement personnelle. On veut qu'il y ait le cœur dedans. Alors, c'est un beau Dvar Torah que j'ai vu il y a très longtemps. C'est, en fait, vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, la faute du veau d'or est omniprésente dans la paracha de Trouma, puisqu'il s'agit de construire un mishkan, un tabernacle, qui viendra expier la faute et montrer que Dieu a pardonné à son peuple. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'il était prévu ? Que Hachem réside dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'il n'y ait pas besoin d'un tabernacle au milieu. Donc chacun soit porteur de cette présence divine. Mais comme on a fait la faute du veau d'or, on est inéligible et donc on a perdu cette faculté de recevoir chacun cette présence divine parce que nous sommes salis par la faute du veau d'or. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée un lieu où on réunit les cœurs de tous les juifs et c'est là-bas, dans ce cœur commun, dans cet endroit commun, que Dieu va résider. C'est ce qu'on appelle le tabernacle, le Mishkan. Mais pour que ça soit le cœur de tous les juifs, il faut que chaque juif y mette du cœur. Parce que si vous le faites par devoir ou par pression sociale ou par le qu'en dira-t-on, c'est pas le cœur. C'est des obligations, c'est des devoirs. Nous, on veut qu'il y ait le cœur. Donc être capable de faire nitvat lev, le don du cœur. Donc c'est facultatif, c'est chacun donne ce qu'il veut, et il ne veut pas donner, il ne donne pas, mais vous avez bien compris, dans ce cas-là, tout le monde veut donner. Bizarrement, lorsqu'on n'est pas obligé de donner, tout le monde veut donner, parce que tout le monde se dit, j'ai envie d'avoir une part dans le tabernacle. Je veux qu'il y ait un petit peu de moi, ici, dans ce tabernacle. Donc chacun est là, en train de dire, vous prenez mon don, hein, attention. Hein. Et d'ailleurs, c'était un appel très réussi, puisque il a fallu les stopper, parce qu'à un moment, chacun voulait donner encore et encore, on dit, mais attendez, il y en a trop. Donc il a fallu que les gens récupèrent, parce qu'il y avait trop. Il y avait énormément, incroyable, la réponse à cet appel. Chacun voulait participer au Mishkan. Alors chacun d'entre nous a on a ce qu'on appelle la Neshama, qui est une étincelle divine, mais le Gilui Shekhina, c'est-à-dire le dévoilement de la Shekhina sur nous, on est malheureusement assez. On a tous un petit peu d'Hachem, entre guillemets, une étincelle divine, mais on n'a pas le sroud d'avoir un Gilui Shekhina, un dévoilement de Shekhina. Ce n'est que les prophètes, les grands tzadikim de toutes les générations qui sont, on va dire, habités par Ruach HaKodesh, le souffle divin. C'est une bracha qu'Hachem donne à celui qui le mérite. Malheureusement, nous avons en fond de nous une Neshama, mais elle est, en fait, on n'a pas de contact avec elle parce qu'il y a une très très grande, c'est couvert par un corps assez épais qui nous empêche de communiquer avec elle. Donc c'est au fond de nous, mais le guilouille de dévoilement ne se fait pas, c'est caché au fond de nous. Grâce à cette étincelle, on existe, hein, de toute manière, ça c'est sûr. Sans ça, on n'existera pas.
Par la trauma dont vous parlez, est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, les dons, la tzedaka, c'est considéré comme une trauma ?
Alors, pour la traduction, on va dire, moderne de ces différents prélèvements, aujourd'hui, il n'y a plus les socles du Mishkan et on ne compte plus le peuple juif. Aujourd'hui, il n'y a plus les sacrifices. Parce que, comme vous le savez, il y a des prières. Donc les prières, c'est chacun qui l'a fait. Donc en fait, c'est plus un don, mais c'est chacun qui va lui-même parler. Vaïdaber, c'est le fameux chapitre des sacrifices qu'on dit chaque matin au moment de la tefila, où chacun va effectivement s'investir soi-même en étudiant, en révisant la paracha des korbanot. Et il y a, encore une fois, la construction d'un mishkan. Aujourd'hui, c'est un bet amidrash, un bet knesset comme aujourd'hui, où là, vous avez chacun fait son don personnel, s'il le veut, il n'est pas obligé de le faire, mais où chacun devrait se dire, moi j'ai aussi envie d'avoir une petite parcelle de cet endroit dans lequel il y a la Shekhina, puisqu'il y a l'étude, parce qu'il y a la prière, parce qu'il y a des juifs qui se rassemblent dans des belles conditions. Donc effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, la traduction du don facultatif, enfin du fond du gond, on va dire, où chacun faisait le don du cœur, ça se reproduit dans la construction de synagogues et de centres d'études et de yeshivat, etc. Alors, le problème, c'est que le mot terouma est utilisé pour la chala, oui. Elle est utilisée également pour le prélèvement donné au kohanim. C'est-à-dire, que lorsque vous aviez une récolte, vous devez donner 2% au Kohanim. Et la Challah aussi au Kohen, prélèvement de la pâte. Donc ça s'appelle Terouma parce que ça veut dire prélever, Terouma. Le mot Terouma, c'est intéressant, c'est le mot qui veut dire l'euro même, élevé. Ram, c'est quelque chose d'élevé. L'euro même, c'est élever quelque chose. Terouma, c'est prélever. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est élever, sortir quelque chose pour lui donner un statut élevé. Au-dessus de la matière, vous lui donnez un statut particulier, vous le prélevez. D'accord, mais ici, oui, c'est le mot terouma est le même, mais le principe est différent parce qu'il s'agit d'argent, il s'agit d'or, il s'agit de pièces, il s'agit de choses, mais effectivement, c'est toujours des prélèvements, sauf que là, ils sont donnés au Mishkan, et que dans le cas d'une terouma classique, le mot terouma classique, c'est donné aux Kohanim, mais qui sont là aussi comme des récipiendaires par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont un travail dans le Beth Amikdash. Maintenant, le Maharal de Prague, il se pose quand même une question et il donne une réponse lumineuse comme d'habitude. Et il commence ses propos en disant ces mots suivants. « Yesh beze od davar muflag bechokhma » Il y a quelque chose d'extrêmement puissant au niveau de la chokhma, de l'intellect, de l'intelligence, parce que on parle de trois troumot. C'est vrai qu'il y a trois fois le mot trouma. C'est vrai qu'on trouve pratiquement trois occasions de dons. Mais sauf qu'il y a... C'est pas par hasard que c'est venu comme ça, voilà. C'est pas un hasard qu'il y a ces trois prélèvements. Et le Rav va expliquer, le Maharal va expliquer le sens caché et profond de ces trois dons. Et on aura une traduction, je pense, très concrète pour nous aujourd'hui. Alors on va commencer et suivre le Maharal. Donc le Maharal nous dit d'abord que, comme je l'ai déjà cité, le Vaudor est omniprésent dans la construction du Mishkan. Il s'agit vraiment pour les Juifs de retrouver Dieu. Ils se sont éloignés de lui parce qu'il y a eu la faute du veau d'or. Il faut qu'ils le retrouvent, qu'ils s'installent parmi nous. Il l'a fait, c'est vrai, mais il l'a fait qu'après la reconstruction du Mishkan. Je vous donne juste l'historique pour que vous puissiez bien, bien situer les choses. Sortie d'Égypte, le 15 Nissan. Le don de la Torah, 7 semaines plus tard, 50 jours plus tard, le 6 Sivan, 6 ou 7 selon les avis. Ensuite, 40 jours pendant lesquels Moshe est sur la montagne pour recevoir les premières tables. Ensuite, 40 jours pour obtenir le pardon divin après la faute du veau d'or, puisque les premières tables ont été cassées suite à la faute du veau d'or. Et 40 jours encore pour recevoir les deuxièmes tables. Ça fait en tout combien de jours? Vous avez 50 jours de Pessah jusqu'à Shavuot, et vous avez 3 fois 40 jours qui se succèdent. Ça fait 120 jours, plus 50 jours. Donc on est arrivé à Yom Kippour. Yom Kippour, le dit Tishri, c'est le moment où il redescend de la montagne, il redescend avec les deuxièmes tables, on est le jour de Kippour, et effectivement, il amène les deuxièmes tables, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on va construire le Mishkan. Parce qu'on veut montrer qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné, expié la faute du veau d'or. Et donc, rendez-vous à quand? Rosh Chodesh Nissan. Le Mishkan va prendre du temps jusqu'à ce qu'on le construise. Et on va l'ériger que Rosh Chodesh Nissan. Et donc, Rosh Chodesh Nissan, on est exactement un an, moins 15 jours, après la sortie d'Égypte, qui a eu lieu le 15 Nissan. Là, c'est le premier Nissan. Donc, un an, moins 15 jours, on inaugure le Mishkan et on montre que Dieu vie s'installe parmi nous. C'est comme s'il avait une maison parmi nous. Il y a une très très belle image que j'aime bien rappeler chaque année. C'est très belle cette image. C'est un papa qui est en fait un roi. Il a une fille qui est une princesse, évidemment, puisque c'est la fille du roi. Mais il n'a qu'une seule fille. Alors il y a son gendre, futur gendre qui arrive et qui dit « Voilà, je vous demande la main de votre fille ». Alors le papa, il dit « D'accord, c'est un bon parti, c'est un bel homme et un noble, etc. etc. » Il a toutes les qualités. Il dit « Voilà, la condition... c'est que c'est ma fille unique et je ne peux pas m'en séparer. Donc tu iras où tu voudras, il y a juste une condition, c'est que là où tu iras, dans le palais que tu construiras, prévois une chambre, pas une chambre seulement, j'imagine c'est un roi, donc il va falloir plutôt un appartement, pour que je puisse habiter à côté de ma fille. En clair, tu prends ma fille, tu prends avec ça, avec les beaux-parents avec. Voilà, d'accord ou pas d'accord? Bon, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, mais peut-être pour un roi, un beau-père roi peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit ça au peuple juif. J'ai une fille unique, c'est la Torah. m'en séparer, je ne peux pas. Vous la prenez, d'accord, mais à ce moment-là, prévoyez-moi un endroit pour pouvoir m'installer. On a dit, qu'à cela ne tienne, on prend la Torah, les tables de la loi, on les met dans l'Arche Sainte, Aaron à Kodesh, et toi, tu pourras t'installer là-bas, dans une pièce bien fermée qui s'appelle le Kodesh à Kodashim. Tu ne nous quitteras pas, tu seras là-bas, et donc Akadosh Baruch Hu accompagne les Louchot, la présence divine, la Shekhina, et elle réside dans le Mishkan. C'est une très belle image pour nous rappeler qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah, on dit « bon, allez, vous la prenez ». Et ça y est, c'est comme une fille, on la quitte jamais, vous savez très bien, on parle à des mamans, vous ne quittez jamais vos filles, même si des fois, ce n'est pas facile d'être toujours là lorsqu'il y a le gendre, etc., il faut s'organiser. Mais si c'est dit au départ, peut-être que ça peut s'organiser. Tov.
Pourquoi vous avez précisé, un an.
Oui, parce qu'en fait, c'était Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du Mishkan, et la sortie d'Égypte avait lieu l'année d'avant, le 15 Nissan. Donc on est un an moins 15 jours. Donc voilà un peu l'historique de la sortie d'Égypte, c'est clair. Maintenant, la question est de savoir, puisqu'il s'agit de montrer l'expiation de la faute du Vaudor, le Rav, le Maharal, nous fait remarquer que la faute du Vaudor s'est faite à trois niveaux. Marshava, Maasé, et également Mammon. J'explique. Marshava, c'est la pensée. Maasé, c'est l'action. Et Mammon, c'est l'argent. L'argent, on va commencer par le plus simple. Il s'agissait de donner de l'argent pour construire le veau d'or. Qui a participé? Alors, bravo les femmes. Elles n'ont pas voulu participer. Mais les hommes, c'est des brutes. Ils ont arraché les bijoux de leurs femmes. Donc, malgré elles, elles ont participé sans le vouloir. Mais c'est les hommes, en fait, qui ont pris les bijoux de force. Bien, donc l'argent, on a mis l'argent dans le veau d'or. Marshava, est-ce qu'on a adhéré au veau d'or? Est-ce que vraiment les Juifs y ont cru? La réponse est oui. Elé Elohecha Israël, voici t'as dit Israël, c'est clair qu'ils y ont cru. Est-ce qu'ils ont fait des actes? Oui, ils se sont prosternés, ils ont dansé, ils ont apporté des sacrifices, bref, ils ont fait l'action. Or, dit le Maharal, dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, même si on ne faisait pas d'action et même si on ne donnait pas d'argent, c'est déjà interdit simplement dans son pensée d'adhérer. C'est-à-dire dans notre pensée, on n'a pas le droit de se dire « bon, je fais semblant d'être un juif pratiquant, mais dans ma tête, je crois dans d'autres dieux. Je crois en d'autres dieux, mais je fais semblant d'être juif. » Ça, ça ne va pas, ça ne passe pas. Parce que dans le ciel, on enregistre les pensées aussi. Maintenant, je vous rassure, si quelqu'un a une pensée d'assassinat. Il y a un type qui ne supporte pas, il voudrait l'assassiner. Mais, bon, Hachem, il ne va jamais l'assassiner, mais c'est juste qu'il a dans sa tête des pensées assez monstrueuses. Il se dit, celui-là, si je pouvais me débarrasser de lui, malheureusement, ça peut nous arriver lorsque quelqu'un nous met vraiment, vraiment, vraiment hors de nous. Ou bien quelqu'un, il rêve pendant Shabbat de prendre une cigarette et de fumer. Les grands fumeurs, je pense que pendant Shabbat, souvent, ça leur prend d'avoir des rêves de m'en prendre une cigarette. Est-ce qu'on transgresse une interdiction en pensant à cela? Ou bien, vous pensez de vous offrir un bon morceau de jambon parce que ça vous fait très envie, mais vous ne pouvez pas, ou des huîtres, ou bien des écrevisses, et vous y pensez très fort. Est-ce que vous transgressez une interdiction en y pensant?
Il est dit pour Shabbat, si on pense à des choses profanes, c'est assourd.
Alors, je vous répète, je dis, madame, c'est faux, c'est pas assourd. Heureusement que d'ailleurs, c'est pas assourd, parce que je ne sais pas comment on s'en sortirait. C'est peut-être pas recommandé. Non, voilà. C'est sûrement pas recommandé, mais en même temps, franchement, on n'est pas des anges. Passer 25 heures à ne pas penser autre chose qu'au Shabbat, ce n'est pas humain, c'est des gens exceptionnels qui peuvent le faire. C'est sûr que ce n'est pas recommandé, mais ce n'est pas interdit. « Hirur be Shabbat mutar ». On le dit même dans un fameux chant que l'on dit vendredi soir. « Hiruri mutarim », les pensées sont permises. Par contre, les paroles, il faut les contrôler, et les actes, évidemment. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est interdit de penser. Donc si quelqu'un pendant Shabbat, il rêve de prendre une cigarette, il n'a pas transgressé quelque chose. Quelqu'un qui a pensé prendre sa voiture Shabbat, il n'a pas transgressé. Par contre, il y a deux exceptions au niveau de la pensée. Arayot, les pensées sexuelles sont interdites à tout moment, pas Shabbat, mais tout le temps. Et les pensées de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, c'est-à-dire une croyance idolâtre. On n'a pas le droit d'adhérer même dans sa pensée, même si on ne fait rien. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est dans le cœur, c'est dans notre tête. Donc, Avodah Zara, Gilui Arayot, ce sont les deux exceptions où la pensée est interdite. Pour tout le reste, c'est permis. Je n'ai pas dit que c'est recommandé, je n'ai pas dit que c'est une bonne chose, mais j'ai dit juste que ce n'est pas interdit. D'accord ? On ne transgresse pas d'interdiction. Alors, bonne question. Le Chafetz Chaim, dans son livre Mishnah Brura, pose la question. Et pour un homme, c'est des fois très compliqué lorsqu'il voit des belles femmes, etc., de ne pas avoir des mauvaises pensées. Eh bien, il conseille de penser à la phrase suivante. Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Et de voir le Yud Kevavke, comme s'il le voyait se représenter devant lui, en ponctuant Yir'a. C'est-à-dire, sous le Yud, il imagine qu'il y a un Chirik, etc., comme le mot Yir'a, Yud Kevavke. Il le fait passer devant ses pensées, dans ses pensées, ça chasse des pensées qui sont interdites. Ou bien, mieux encore, il a sa tête dans sa sugya, il réfléchit à Baye, Rava, Rabbi Zera, Rafapa, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon. Ça chasse rapidement les mauvaises pensées. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Il faut avoir la tête bien prise. Et mon Rav nous disait toujours qu'avant de partir, en bus, parce qu'il n'avait pas de voiture ni de chauffeur, il prenait, le Rav Olbe, toujours les transports en commun. Et comme c'était des fois en été, qu'en Israël, il peut pas, c'est fait déjà très chaud, tout le monde ne s'est pas toujours bien habillé. Donc il faisait attention, avant de partir, de se préparer une question sur laquelle il pensait dans son voyage. Il a dit, mes plus belles réponses, je les ai trouvées dans le bus. Plusieurs explications dans le bus. Donc en fait, il nourrissait sa pensée avant de sortir. Tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions, même si elles ne sont pas, je ne dis pas, très simples. Mais il y a des solutions. Donc, reprenons notre sujet. On est bien d'accord qu'il y a trois fautes qui se superposent. La pensée, l'action et l'argent. Ces trois fautes, les hommes qui ont fait la faute du veau d'or les ont transgressées. Donc il est normal que lorsqu'on apporte des troumotes, c'est-à-dire des prélèvements, on vient expier chacune de ces trois fautes, pensée, action et argent. Et maintenant, on va rentrer dans les détails. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Il dit que l'être humain est composé de trois choses. Vous avez un corps, vous avez nefesh, une âme, et vous avez mammon, de l'argent. Vos biens font un peu partie de vous-même, même si ce n'est pas comme évidemment le corps et l'âme, mais ça fait partie de votre vie. Donc vous avez votre corps, vous avez votre âme et vous avez vos moyens. Tout ça, ce sont trois éléments qui font partie de vous. Bien. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. On va essayer un petit peu de connaître, d'apprendre une mara dans Nida, page 31. La Gemara de Nida, page 31, est extrêmement intéressante. Shlosha shutafim yesh ba'adam. L'homme, il a trois associés. C'est-à-dire la création d'un enfant se fait grâce à trois interventions. Un homme, une femme, ça je pense que tout le monde le sait, et également Akadosh Baruch Hu. Hachem est présent, mais on le voit moins, mais il y a l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce qu'il faut un moment faire entrer une neshama, et la neshama, c'est Dieu qui la donne. Mais qu'est-ce que donne l'homme et qu'est-ce que donne la femme ? Alors attention, vous allez découvrir que l'homme apporte tout ce qui est blanc. Aviv Mazriah Halloven. Le père donne la blancheur, les os, les nerfs, les ongles, le cerveau, il est blanc aussi, et le blanc des yeux. Je vous cite la Gemara. Ça, c'est l'homme qui donne le blanc. Blanc des yeux, le cerveau, les ongles, les nerfs et les os. Madame, qu'est-ce qu'elle donne, madame ? Tout ce qui est rouge. Alors, elle donne la peau, la chair, le sang, les cheveux et la prunelle des yeux, le noir, shachor. Parce que pour nous, le noir et le rouge et le noir de l'ancienne dalle d'ailleurs, c'est la même chose. La Gemara dit que le rouge, lorsqu'il change de couleur, il devient noir. Il peut devenir noir, il peut changer, évoluer en noir. Donc on a cinq choses données par l'homme et cinq éléments donnés par la femme. Alors c'est très intéressant cette image de Gemara. Le blanc, l'homme, et le rouge, la femme. Pourquoi la femme, le rouge, et l'homme, le blanc ? Surtout si on sait ce que représente le rouge dans la symbolique. Le rouge, c'est la faute. Le rouge, c'est l'excitation. Lorsque chez Yom Kippour, on met une langue rouge qui se transforme, un morceau de tissu rouge qui se transforme en blanc, le Yom Kippour. Vous savez tous que Yom Kippour, vous n'allez pas vous habiller en rouge. Yom Kippour, on s'habille plutôt dans des couleurs blanches. Voilà. La vie, c'est là où... Alors, quelle est effectivement, elle a des règles. Et donc, où apparaît encore une fois le rouge. Pourquoi cette notion du rouge? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, le rôle d'une femme, c'est, tout en étant rouge, c'est-à-dire avoir cette sensibilité très forte dans ce monde d'excitation, parce qu'une femme, elle est là, quelque part, elle est là pour un peu exciter les hommes, pour essayer de les attirer. C'est naturel, ça fait partie de la... Mais c'est pas dans le sens toujours négatif. Ça peut être évidemment quelque chose de destructeur, et ça peut au contraire construire une maison. Si elle sait au contraire être attirante, et donc son mari, il est content d'être avec elle, ça crée, bon, Hachem, une belle famille, une belle maison, et un beau Shalom Bayit, et c'est quelque chose de magnifique. Donc en fait, ce qu'elle doit faire, c'est de faire en sorte que par son mariage, son rouge devienne blanc. Vous comprenez? Ce rouge, au contraire, soit l'associé du blanc. Le blanc et le rouge fassent bon ménage. Ce qui est dangereux, si ça reste que du rouge, c'est-à-dire de l'excitation, bien à un moment, l'excitation disparaît, et finalement, il ne reste plus rien du mariage, d'où le divorce fréquent que l'on redécouvre, parce qu'il n'y avait que de l'excitation et de la séduction, rien d'autre. S'il n'y a rien de solide, maintenant... Une femme qui réussit et un homme qui réussit, ce sont un couple qui réussit, c'est en fait un sang, un blanc qui en réunit un rouge et qui finalement se couple très bien tous les deux et se complète. C'est-à-dire que là, en fait, c'est le rouge de la femme qui ne doit pas obligatoirement devenir blanc, qui doit s'accoupler, c'est-à-dire s'associer au blanc. C'est-à-dire la partie, alors la partie un peu excitante et du côté séduction de la femme. Ne doit pas être quelque chose qui l'amène vers, malheureusement, des choses qui ne sont pas dans le cadre de la Torah, mais au contraire, qui le rapproche de son mari et qui fait en sorte que les enfants sont fiers d'avoir une maman qui est belle, qui est séduisante, mais qui, en même temps, une femme fidèle à son mari et qui, finalement, arrive à utiliser cette excitation, non pas dans quelque chose de dévoyé et de pervers, mais au contraire, dans quelque chose de très constructif. La Torah est la première à dire qu'une femme doit rester attirante et doit faire attention d'être belle, mais pour son mari. Pas se faire belle lorsqu'elle va à l'extérieur et à la maison être non regardable.
Je suis d'accord, mais le rouge, il n'a rien à faire.
Le rouge représente l'excitation. Alors attention, le travail. Ouais, ouais.
Le rouge est parfait. Le blanc est parfait. Le rouge, il y a plein d'efforts à faire pour sa nature.
Alors c'est pour ça que je vous expliquais. Que la partie blanche et la partie rouge parlent de la partie féminine et la partie masculine. La partie féminine, elle existe en l'homme aussi, c'est-à-dire l'homme a besoin d'excitation. Il est sensible à ce côté d'excitation du rouge. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire en sorte qu'il blanchisse ce rouge, c'est-à-dire qu'il lui donne un cadre qui fasse qu'en fait, ensemble, l'homme et la femme gèrent leur rouge pour la faire cohabiter avec du blanc, que ce ne soit pas une opposition, mais au contraire, une composition. Une association. Et pour cela, le blanc et le rouge ne sont pas antinomiques. Ils sont complémentaires, et au contraire, ça donne quelque chose de très équilibré, d'avoir quelque chose qui est blanc et qui est rouge. Ce qui est dangereux, c'est le rouge de Edom. Edom, c'est Monsieur Rouge. Vous avez certains drapeaux, d'ailleurs, où le rouge est très présent. C'est le cas de la Chine et de la Russie. Et c'est pas évident de gérer ces deux pays qui sont pas évidemment très 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 ont pas une gestion très simple de leur agressivité, mais on a une sorte de dimension du rouge qui est dangereuse parce qu'elle l'amène à la violence et à la séduction, mais une séduction qui amène vers la dépravation. Et ce rouge là doit être complètement géré. Bien, tout ça pour vous revenir à ce que le Maharal ici veut dire. Il dit le Maharal. 5 éléments donnés par monsieur et 5 éléments donnés par madame. Tiens, dit le Maharal, ça donne 10. 5 et 5, ça fait 10. Et pourquoi est-ce qu'il dit bravo? Parce qu'il dit, regardez ce qui est écrit dans le verset. Un demi-cycle, c'est Asar Eser Gera. Asara Gera, c'est 10 Gera. Vous verrez ça dans le texte de la Torah. Voilà, Gera, c'est une unité, c'est une pièce de monnaie, mais qu'évidemment... moins importante que celle du shekel. Et ce qui est très intéressant, vous reverrez ça, vous ferez le calcul chez vous, mais déjà je vais vous montrer dans le texte de la Torah, c'est dans la paracha de Kitissa, on va le lire bientôt, et en plus ça sera la paracha de Shkalim. Alors, un shekel, c'est esrim gera. Donc un demi-shekel, c'est esser. C'est pas 20, c'est 10. Et faites remarquer une chose très intéressante. L'Ariza, elle fait remarquer que shekel, c'est valeur numérique 430. Et que nefesh, l'âme, c'est valeur numérique 430. Or, on nous dit que le shekel va être mechaper anafshotechem, va faire expiation sur votre âme. Shekel, nefesh. Et regardez comme c'est extraordinaire, je vais traduire ça dans des mots très proches. Nefesh, c'est l'âme. Mais c'est pas l'âme, il y a beaucoup de niveaux d'âme. Il y a Neshama, il y a Ruach, il y a Nefesh. Nefesh, c'est la partie de l'âme la plus basse, celle qui donne l'énergie de l'action. C'est l'énergie de l'action, celle qui nous booste un peu, qui nous donne l'énergie vitale.
C'est ce qu'a l'animal.
Même l'animal, il a une Nefesh. Donc c'est la partie la plus basse de l'âme. L'âme qui donne la vie, qui donne l'énergie. Alors vous avez bien compris que le shekel est donné pour l'échapper à l'anjotérim. C'est quoi shekel? Shekel, c'est en fait de l'argent. Mais cet argent, il vient d'où? D'un effort, d'un travail. Il est en fait le symbolique d'un effort, d'un travail qui a été produit. Ce travail, je le destine à quoi? Alors je dois savoir que tous ces efforts physiques que je fais dans la vie de tous les jours, je dois les utiliser, les chaper al nafshotechem, pour faire expiation sur mon âme. C'est en fait réorienter l'énergie, que l'énergie ne soit pas dans un but de me construire une vie matérielle sans spiritualité, une vie matérielle qui flatte mon ego, mais au contraire une vie matérielle qui vient au contraire s'associer au nefesh, qui complète l'énergie et qui au contraire est complémentaire et qui s'associe nefesh et shekel. Ça c'est le message qui était écrit. C'est pour ça donc qu'il faut donner alors regardez comme c'est extraordinaire. On a dit qu'il y a trois prélèvements. Je vous rappelle. Premier prélèvement, un demi-cycle pour construire les socles. Il y a un deuxième prélèvement, un demi-cycle pour acheter les sacrifices de la communauté. Ça fait deux demi-cycles. Deux demi-cycles, ça fait un shekel. Et un shekel, c'est les 10 choses. L'homme a donné 5 choses. Madame a donné 5 choses. Et à Kadosh Baruch Hu, il en donne 10. Est-ce que vous savez quelles sont les 10 choses qu'Hachem donne? Alors on va les nommer. Très intéressant. Ruach. Alors c'est pas la respiration, Ruach, c'est une forme de Neshama. Neshama. Donc il y a deux types de Neshama, Ruach et Neshama. Klaster Panim, l'éclat du visage. Re'iyat Ha'ayin, la vision. Shmiat Ha'ozen, l'audition. Dibur Pe, la parole. Hilu Raglaim, la démarche. Dea, la connaissance. Bina, la compréhension. Haskel, la capacité d'appliquer dans l'action grâce à une intelligence de la réalisation, qu'on appelle Haskel. Akadosh Baruch Hu nous donne 10 choses. Je résume et je répète. Ruach Neshama, donc deux types d'âmes. L'éclat du visage, c'est très intéressant. L'éclat du visage, c'est très marquant. Vous avez voyé quelqu'un dire « Ah, il est bien celui-là. » Non, il n'est pas bien. Il a l'air... Vous avez regardé, hein, vous regardez le... Tout de suite, c'est incroyable. Hein. Et ça, ce n'est pas physique. Ce n'est pas plastique. C'est vraiment quelque chose qui est indéfinissable. C'est Dieu qui donne. C'est un peu une sorte d'apparition de l'âme. Quelque chose qui vient d'un autre monde. Re'iyat Ha'ayin, la vision, c'est pas seulement la vision purement technique. Voilà, pardon. Regardez, vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous voyez à l'intérieur de ses prunelles, vous sentez qu'il y a tout à fait autre chose que simplement un organe qui voit. Vous sentez l'intériorité d'une personne qui se révèle à travers le regard. Le regard, je dirais plus Re'iyat Ha'ayin, mais le regard. Et lorsque vous écoutez Shmiat Ha'ozen, c'est Dieu qui donne la possibilité d'entendre. D'entendre, ce n'est pas juste d'entendre d'une façon auditive, mais de percevoir, de sentir quelque chose qui va au-delà simplement de l'écoute plastique et organique. Et même la démarche. Vous savez, la démarche, ça m'a beaucoup étonné. Et je vous raconterai une histoire que vous êtes arrivé il y a des années et des années à la Yeshiva. Le Rav Wolbe nous a dit, est-ce que vous pensez que vous avez évolué en un an? Vous êtes là à la Yeshiva depuis un an, est-ce que vous avez évolué? Alors on s'est regardé, un petit peu gêné, il a dit, je sais que vous avez évolué. Et Rav, comment vous le savez? Vous ne nous connaissez pas, évidemment, chacun, vous n'avez pas fait un examen à chacun, etc. Je vous ai vu marcher autrement. Votre démarche n'est pas la même un an après votre arrivée à la Yeshiva, d'il y a un an. Ça a changé. C'est des fois dans la démarche, vous avez des indices extraordinaires sur la façon dont les gens avancent, marchent. Bon, je sais que ce n'est pas évident à comprendre ce que je dis. Moi, je vois ça des fois souvent, enfin, je vois des fois ça sur des gens, que leur démarche change s'ils prennent un peu de hauteur, un peu de noblesse, un peu de... voilà, c'est des personnalités qui se dégagent à travers une façon de marcher, une façon d'être dans le, voilà, dans la gestuelle, etc. Donc tout ça, ce sont 10 choses données par Dieu sur les 10 choses données par monsieur et madame, par les parents. Ça fait en tout 20 choses. Et c'est les Esrim Gera. Ayant donné deux fois le demi-cycle, j'ai donc un shekel entier. Un shekel, c'est 20 Gera. Et 20 Gera, c'est une allusion aux 20 choses données par Hachem. 5 des parents, chaque parent, ça fait 10 en tout. Puis 10 d'Akadosh Baruch. Alors c'est très intéressant parce qu'il faudrait...
La troisième forme de don, c'était quoi ?
Voilà. Nous arrivons à la troisième force de don. La troisième forme de don qui, elle, n'était pas un demi-cycle, mais c'était... Là, c'était chacun donne ce qu'il veut et c'est facultatif. Nidvatlev. Simplement, ça doit être fait avec le cœur. De quoi s'agit-il ? De quoi parle-t-on ici ? Eh bien, ici, on parle tout simplement d'un autre sujet. C'est celui du mammon, de l'argent. Donc... L'argent, il faut comprendre que on n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Mais ce qui est très intéressant, dit le Maharal, j'adore cette phrase-là, il dit, normalement, enfin la logique humaine aurait été de dire, on va faire en fonction des moyens. C'est-à-dire, les riches vont donner à partir d'une certaine somme, et les pauvres, moins d'une certaine somme.
Comme les impôts.
Comme les impôts, en fonction des revenus, et en fonction des moyens. Il dit, chez nous, dans le peuple juif, c'est pas vrai. Il y a des gens très riches, mais qui sont très pauvres. Pourquoi les gens riches sont pauvres ?
Parce qu'ils donnent pas.
Parce qu'ils donnent pas, parce qu'ils sont toujours en sentiment, un sentiment de manque. De manque et de frustration. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui considère qu'il est nul parce qu'il n'a pas autant que celui qui habite à côté de lui, il a une villa moins grande, moins spacieuse, etc., ou qu'il a une voiture qui est moins belle que celle de son prochain, c'est quelqu'un qui en manque. Est-ce qu'il est riche ? Non, il a de l'argent dans la banque.
Il n'est jamais riche, d'ailleurs.
Mais en fait, il n'est pas riche, parce qu'en fait, il est toujours en train de chercher de l'argent. Et vous avez des gens très simples, qui ont peu de moyens, mais qui disent, moi, j'ai besoin de rien. Tu vois, leur dire, mais franchement, je ne manque de rien. Grâce à Dieu, il ne manque de rien. Ces gens-là sont des gens riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas d'argent. Être riche, c'est ne pas chercher de l'argent. Et être pauvre, c'est être en la recherche d'argent. Donc, ce n'est pas une question de compte en banque. Merci beaucoup. Alors, le Maaser, bonne question. Le Maaser, c'est un prélèvement obligatoire de 10% sur tous les bénéfices. Cela, ça vient effectivement en fonction des revenus, parce que c'est 10% de ce que vous avez gagné. Donc, ça dépend du revenu. Mais là, on est bien d'accord. Donc, à la retraite aussi, si par exemple.
Mais le Maaser, c'est l'impôt sur le revenu.
Alors, tout ce qui rentre dans votre compte, tout ce qui rentre dans votre compte. Vous prenez 10% si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, parce qu'il y a un mois en particulier, par exemple, vous pouvez noter ça et dire j'ai cette dette, je la paierai lorsque j'aurai un mois où j'aurai plus d'argent qui rentrera. Mais c'est comme une dette qu'on a de 10%, mais ce n'est pas les cas de ce que nous sommes en train de parler de prélèvements qui sont des prélèvements exceptionnels, sauf pour le sacrifice. Mais je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Donc il n'y a plus ce prélèvement obligatoire. On en parle simplement par Rachat Shkalim. Dans quelques semaines, on va en parler. Mais sinon. Le maaser dont on vous parlait, c'est quelque chose qui est lié aux récoltes. À l'époque, au moment des récoltes, on devait donner la dîme aux pauvres, 10% aux pauvres, et donc une partie aux Cohen, aux Lévi, donc ça aussi, ça n'existe plus. Mais par contre, on donne aux pauvres toujours les 10%. Mais là, ce sont des prélèvements exceptionnels. Donc ce prélèvement pour construire le Mishkan, on dit le Maharal de Prague, on n'a pas voulu donner... des barèmes en fonction des revenus ou de la richesse des gens. On a dit chacun fait en fonction de ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu considérer que quelqu'un qui a peu de moyens, on va refuser son don, parce que peut-être celui qui a peu de moyens est plus riche que celui qui a plus de moyens. Parce que celui qui a peu de moyens se considère gâté et comblé, et celui qui est riche se sent totalement en frustration, il lui manque ceci, il lui manque cela. Donc ça dépend de cela, la richesse. Ezehu Ashir, à sa mère Bechelko. Le riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Ce qu'il voulait pour la construction. Effectivement, il y a eu aussi une émulation très spéciale, très particulière. Elle a eu lieu le lendemain de Kippour. Elle a duré 3-4 jours. Et en 3-4 jours, c'était bouclé. Il y avait largement suffisamment, et même peut-être plus. Et ça, ça n'a pas été donc changé au niveau de des moyens. Alors c'est très intéressant de voir donc comment dit le Maharal. Donc lorsqu'il s'agit de l'argent, chacun a donné en fonction de ses moyens. De la même façon que au veau d'or, chacun avait donné de l'argent, il fallait ici faire la kapara, le tikkun de ce qui a été donné au moment du veau d'or. Donc chacun a donné de l'argent, mais chacun a donné en fonction de c'est de ce qu'il voulait, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup, il y a des gens qui ont peu, il y a des gens qui sont généreux, d'autres qui sont moins. Tout cela, on ne peut pas fixer des règles figées. Par contre, lorsqu'il s'agissait de faire l'accaparat sur le corps ou sur l'âme, on a tous le même corps. Des gens un peu plus beaux, un peu moins beaux, mais on a tous la même physique. On a tous deux yeux, deux oreilles. On a le même corps, les mêmes organes. Et on a la même nefesh, la même âme vitale, on l'a tous. Donc là, on a donné un machatzit shekel qui est quelque chose de fixe et qui ne change pas, qui ne varie pas en fonction des gens, parce qu'on a tous la même chose. On a tous un corps et tous un nefesh et tous on a Hachem qui était présent dans notre naissance et qui a collaboré à notre naissance, et un homme et une femme, obligatoirement. Alors, maintenant, rappelez-vous une chose, c'est que nous allons traduire ça dans des termes très concrets. Et dans quelques instants, je voudrais que vous compreniez déjà ce que dit le Maharal dans le texte du Gourarié, donc son commentaire sur Rashi, que je vais résumer et vous donner donc la conclusion. Et après, je vais vous traduire ça dans des termes beaucoup plus proches de nous au quotidien, parce que ça a un sens très fort pour nous au quotidien. J'y arrive. Donc, résumons simplement la question, puis après comment on a répondu. La question était de savoir comment se fait-il qu'il y a trois prélèvements qui se retrouvent l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard, parce qu'on vient expier la faute du veau d'or. Le veau d'or, c'était par la pensée, par l'action et l'argent. Et là, ainsi, la pensée et l'action, c'est ce qui correspond au corps, c'est l'action. La pensée, c'est la nefesh, c'est plutôt le côté âme. Et donc, il y a l'argent, les moyens qui ont été donnés pour construire le veau d'or. Expiation de ces trois investissements pour le veau d'or, on donne trois prélèvements. Un demi-cycle deux fois, deux demi-cycles, ça fait un cycle, ça fait un shekel, plus un don qui est variable selon les volontés de chacun. Donc on a expié Mammon et Gouf et Nefesh, les trois dimensions dans lesquelles on s'est impliqué dans le veau d'or. Ça a la même valeur numérique que le mot Nefesh. Alors Nefesh, c'est en fait votre énergie. Et shekel, c'est ce que vous avez, c'est l'argent que vous avez gagné par le travail que vous avez produit. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes en train de travailler, il y a un danger, c'est que vous oubliez le nefesh. C'est-à-dire que le nefesh, c'est votre dimension spirituelle, et que vous mettiez toute votre énergie, toute votre force dans la réalisation purement financière. Donc, on nous dit attention, si tu es capable de donner ton shekel pour construire le Mishkan, pour les corbanotes, là tu as réorienté le shekel vers le nefesh. D'accord? C'est ça que la Torah veut nous dire. Maintenant, Rabotai, je voudrais expliquer la traduction très très proche de nous, très concrète de ce Dvar Torah. Vous avez quelque chose que vous n'avez peut-être pas relevé, mais qui est quand même étonnant, c'est que la construction du Mishkan finalement se fera en deux temps. Il y aura les dons du cœur, mais il y aura les socles. Les socles ont été donnés par des demi-cycles. C'est quand même bizarre que les socles, sont d'une origine différente que l'ossature elle-même, que le poteau lui-même. Le poteau, c'est chacun selon son cœur. Le socle, c'est un demi-cycle. Tout le monde a la même chose. Et là, il y a une allusion très forte à ce que, dans la construction que nous devons tous faire de notre personnalité, il faut se rendre compte qu'en fait, chaque juif, il doit faire shacharit, mincha arvit, il doit faire shabbat, il doit mettre tefillin de talit, la brit mila, etc., etc., etc. Finalement, on n'est pas différents les uns des autres, on a tous les mêmes obligations, il n'y a pas des gens qui sont dispensés, d'autres qui disent, voilà, toi tu feras plus, tu feras moins, non, tous la même chose. Machatzit shekel, c'est tous la même chose, tous à la même enseigne, et ça c'est la base, c'est le socle, c'est le support. Dans une vie, on ne peut pas dire, moi, je vais faire une action extraordinaire pour Dieu. Je vais aller sauver des milliers de gens très pauvres de la pauvreté. Je vais ramasser chez les riches, je vais donner aux pauvres. Et il laisse tomber Shacharit, Mincha Arvit, Shabbat, etc. Il se donne, il se consacre pour quelque chose de magnifique. C'est une très belle mitzvah. Sauf qu'il ne peut pas dire, un homme ne peut pas se construire que sur les élans du cœur, que sur des choses exceptionnelles, héroïques. Un homme, il doit comprendre que pour se construire, on a besoin d'une régularité et de choses qui sont des socles, des bases. On ne déroge pas. Après, on peut rajouter dessus. Oui, bravo, rajoute, c'est beau. Mais ne fais pas que ta vie, que un judaïsme, on va dire, un peu à ta sauce, selon ton émotion du moment. Ah, en ce moment, je suis chaud pour Dieu, donc je vais faire ci. Puis un jour, je suis moins chaud. Puis un jour, j'ai envie, un jour, je n'ai pas envie. Non, il faut avoir un socle, une base qui est fixe et régulière. Parce qu'un être humain, pour se construire, il a besoin d'un cadre qui est très, très rigide. Et vous, les dames, vous êtes particulièrement, on va dire, sensibles à cette vie, on va dire, bien régulier, organisé. Vous avez envie d'avoir une maison, d'avoir un céder, un mari qui dit je reviens à telle heure, il revient à telle heure, qui donne du temps pour sa famille, qui a une vie rangée. Et les hommes, ils ont un peu tendance à être un peu volage, un peu comme ça, un peu dans tous les sens. Et remarquez, les socles, c'est un creux, ça s'appelle nekeva, ça veut dire quelque chose qui est au proche du côté féminin. Et dans les socles, on rentrait des tenons, des poutres, qui avaient plutôt le côté de l'organe masculin. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la prise terre, la prise, pardon, terre c'est une chose, mais la prise mâle et femelle. Celle qui est sous la forme d'un trou et celle qui est plutôt sous la forme d'une pointe. L'homme, c'est la pointe et la femme, c'est le trou. Pourquoi ? Parce que le trou, c'est fermé, c'est bien délimité et elle est là pour recevoir. Donc une femme attend de créer un cocon, un lieu rassurant, bien défini, bien, bien organisé. Et ça, ça la rassure énormément. C'est intéressant que le socle... Non, en plus ça, regardez comme c'est extraordinaire. L'ADN, vous en avez tous entendu parler de l'ADN. C'est exactement Adan. Adan, c'est ADN. C'est les mêmes lettres. Aleph, Dalet, Nun, ADN. ADN, c'est la base et le socle de tout être humain. Il est basé sur un ADN. Et c'est Adan. Adanim au pluriel. Adan au singulier. Ce sont les socles. Donc rappelez-vous de cela. Et Adoshem, Adon, c'est le maître. C'est la base, c'est d'avoir un maître, c'est-à-dire en son notion d'avoir une organisation, comme si on a sur nous des obligations, des devoirs, avec un maître, des devoirs à rendre. Ça, c'est Aden. Maintenant, regardez bien. Après, il y a les sacrifices. C'est quoi les sacrifices ? Les sacrifices, c'est en fait, demi-cycle encore, quelque chose de très, très régulier. C'est qu'en fait, si quelqu'un n'organise pas sa journée avec des devoirs de prière. Vous savez que les prières, des fois, ça vous saoule un peu. C'est toujours la même prière, et c'est 3 fois par jour, et on ne change pas, et on voudrait rajouter des choses personnelles. Il y a des phrases là-bas qui ne nous parlent pas, qui ne sont plus d'actualité pour nous, on a l'impression, etc. Et donc, repensez à ce demi-cycle pour acheter le sacrifice communautaire. C'est aussi pour que chacun participe, mais c'est aussi pour nous dire qu'un homme a besoin de ses prières quotidiennes qui sont bien organisées. Après qu'il en rajoute en plus, Baruch Haba. Mais il a besoin de ses rendez-vous quotidiens. On ne se rend pas compte combien ça nous construit. Parce que comme on est né dedans, on ne comprend pas combien c'est constructif. Mais quelqu'un qui s'est habitué, qui a bien bien compris le sens des choses, il ne le fait pas rapidement, il ne le fait pas d'une façon, on va dire, désinvolte. Il comprend que c'est des rendez-vous très importants pour son sacrifice à lui, qui est sa parole à Dieu, tous les jours dans sa prière. D'accord ? Et après, quelqu'un doit comprendre qu'il faut aussi y aller avec son cœur. Et pour y aller avec son cœur, il faut que chacun s'exprime à sa façon, avec sa nature. Et là, effectivement, la Torah nous dit, nous avons des mitzvot, il faut tous les faire, mais on peut le faire avec un petit touche personnelle. Il y a des gens qui vont plus s'investir dans telle mitzvot, donc ils vont s'investir dans un autre mitzvah. On va le faire avec notre sensibilité. C'est pas grave. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle le don du cœur. Le don du cœur, c'est bienvenu. Mais une fois qu'on a régulé nos sacrifices, c'est-à-dire nos prières quotidiennes, et qu'on a régulé nos Shabbats, etc., notre relation avec Hachem dans une façon très correcte et très, très construite, qui s'appelle le respect de la halakha. Il y a la halakha, il y a le respect des prières, et il y a le don du cœur, c'est-à-dire des choses qui sont plutôt facultatives, et qu'on rajoute, et qui sont bienvenues, les bienvenues, mais qui sont peut-être l'ossature, mais qui ne sont pas le etzem, il n'y a pas que ça. Voilà un petit peu ce que je voulais ici vous apprendre, c'est que si vous êtes capable de faire ça, eh bien, regardez ce qui est écrit. D'abord, l'Israël écrit, on lit Teruma. Et Teruma, dit Rashi, Lilishmi. Il faut savoir qu'ici, le sage de la Kabbalah nous dit que la Teruma dont on parle ici, c'est un peu notre âme qui est cachée, qui est bien, bien enfouie en nous. pour pouvoir lui permettre de s'exprimer à cette âme, elle a besoin de ces trois dimensions. Je vous rappelle les trois dimensions, quelque chose qui est lié au corps, quelque chose qui est lié à l'âme, et quelque chose qui est lié à l'argent. L'argent, c'est les efforts, l'énergie, les moyens, etc. Ce qui est lié au corps, c'est d'avoir cette régulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans sa façon de vivre au quotidien. Nefesh, c'est la tefila, de prier avec cœur. Et après, vous avez le nidvatlev, ça c'est encore une troisième dimension, c'est le plus, qui est au-delà du quotidien, de ce qui est bien géré. Voilà, Rabotai, ce que je voulais ici vous expliquer. C'est véritablement une vraie construction que nous propose ici le Maharal. Et je vous rappelle, le blanc et le rouge. Les femmes, le rouge, les hommes, le blanc. Et si on est capable de les cohabiter, de les associer l'une à l'autre, on a un très beau tableau qui rose. Le blanc et le rouge, ça donne le rose, peut-être. En tout cas, ça donne quelque chose de très harmonieux si on arrive à associer ces deux forces-là. Voilà, mesdames, je vous souhaite très bonne semaine.